Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci de nous retrouver pour cet entretien. J'allais vous dire pour commencer quelle semaine au regard de toute l'actualité. On va, quand on regarde, quand on écoute les informations, on va du drame de la mort de la petite Liana dans le Gers, hein, c'est tout près de chez nous, un événement tragique qui nous redit, qui nous remet en pleine figure notre incapacité à protéger les petits, les plus faibles des prédateurs sexuels. Alors l'actualité, elle va de là, elle va aussi au conflit, notamment au Moyen-Orient, avec cette guerre qui reprend de plus belle et qui embarque Israël, le Liban, l'Iran. Et puis l'actualité, c'est aussi ce merveilleux voyage du pape en Espagne, le pape Léon XIV, qu'on imaginait peut-être timide et en fait qui se montre assez déterminé dans tout ce qu'il nous dit, avec cette ferveur incroyable qu'on découvre en Espagne. L'actualité, c'est aussi la confirmation enfin du voyage apostolique du pape Léon XIV en France pour septembre. Voilà tout ce que c'est l'actualité cette semaine. J'avais envie de vous demander, Monseigneur Mika, comment vous suivez tout cela, comment vous vous y retrouvez et qu'est-ce qui vous touche dans toute cette actualité qui nous fait passer tantôt du rire aux larmes, voilà, qui est tantôt dramatique et tantôt joyeuse.
Je trouve que la question est très bien formulée. Ou, en effet, hein, c'est comment faire l'unité dans tout cela. Bien, d'abord, j'ai envie de dire le seul lieu qui fasse l'unité, c'est la prière, parce que tout cela, c'est de l'ordre de la vie du monde et de la vie des hommes, pour le meilleur et pour le pire, pour ces tribulations de la vie entre la naissance et la mort. Aussi bien à titre personnel qu'à titre de l'humanité. Enfin, que, voilà, c'est l'histoire sainte qui continue de s'écrire avec ses drames et avec ses joies. Et c'est dans la prière et seulement dans le regard et le cœur de Dieu que l'on peut poser un regard unifié sur tout cela et ne pas être schizophrène. Ne pas se mettre sous une cloche pour être à l'abri des mauvaises nouvelles et ne pas se laisser emporter par la dépression, ou au contraire, être complètement indifférent à tout ce qui se passe pour... C'est pas cela que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'embrasser tout cela dans notre regard, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre intelligence aussi, de ce qui se passe. Pour l'inscrire comme dans une trajectoire qui est celle de l'histoire sainte, de l'histoire du salut. Et nous sommes un moment de cette histoire, à titre personnel, comme au titre macro de l'histoire du monde. Bon, alors ben, ces événements, après, un par un, pris un par un, bien, chaque fois, on peut y déceler la trace du mal. Et puis, pour reprendre une expression que j'aime bien employer régulièrement, la vérité de cette chose qui consiste à constater que l'eau mouille et que le feu brûle et l'ignorer conduit à la catastrophe. Voilà, alors pour ce qui est des prédateurs sexuels, on n'arrive pas à les empêcher de nuire, mais on les fabrique. On est dans une société qui rend les gens fous. Et quand l'Église, sur la base de sa vision de l'homme, propose d'être attentif à l'éducation, propose de réguler l'usage des réseaux sociaux et de la violence et de la haine qui s'y déploient, propose une vie morale un peu exigeante et un peu cadrée, eh bien on passe pour de vieux schnocks, pardonnez-moi l'expression, qui sont des empêcheurs de tourner en rond. Mais après, ben, quand on a rendu les gens fous et que en effet ils se comportent comme l'auteur de cette agression, eh bien là tout le monde pousse des cris d'orfraie et a l'impression de découvrir que l'eau mouille et que le feu brûle. Bon sang, bonsoir, on passe notre temps à dire au monde, mais écoutez, demandons la sagesse, on a tous les éléments, on a tous les codes. La sagesse nous est donnée, on sait d'où ça vient, où ça va, comment ça marche, on le sait. Eh bien, faisons ce qu'il y a à faire, c'est tout, c'est une décision que nous devons prendre au niveau de l'humanité, à travers des lois, à travers des comportements sociaux, sociétaux. Et par défaut, à titre individuel et personnel. Voilà. Bon, alors c'est vrai pour cela, c'est vrai pour les racines de la guerre qui, au Moyen-Orient, se déchaînent toujours plus, comme en Ukraine, comme ailleurs. On connaît les ressorts de tout cela, encore une fois. On sait comment ça fonctionne, on sait d'où ça vient. Enfin, et c'est comme si l'expérience, bon sang, et notre continent est quand même, en a acquis l'expérience en la matière, eh bien, n'était jamais suffisante pour convaincre les hommes de choisir la sagesse, de choisir la vie plutôt que la mort. C'est une injonction qui est dans le livre du Deutéronome. Vous voyez, c'est pas nouveau, hein. Choisis donc la vie, choisis donc la vie. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Ben voilà, je passe mon temps à dire qu'on ne vit pas sans faire exprès et qu'il faut choisir de vivre et choisir les éléments qui font vivre. Or, comme le dénonçait le Saint-Pape Jean-Paul II, eh bien, notre monde, notre société, notre culture est une culture de mort et non de vie. Eh bien, décidons d'inverser la chose. Le magnifique texte, pardon, du pape François Laudato Si pointe les ressorts en disant tout se tient, que ce soit le rapport à la nature, à la création, au monde, le gaspillage des ressources, l'épuisement de la terre et l'injustice des rapports entre les humains. Bien, tout cela ne fait qu'un en réalité. On le sait, on le sait. Eh bien, voilà. Et donc, il n'y a que dans la prière qu'on peut trouver l'unité, qu'on peut se protéger de la colère aussi, et trouver les ressorts pour que chacun de nous, à notre niveau, puissions faire ce qui est possible de faire pour inverser tout cela.
Alors, j'ai deux questions en réaction à ce que vous dites. D'abord, j'entends bien tout ce que vous dites, monseigneur, mais même quand on prie, même quand on lit les textes des papes, même quand on adhère à ce que dit, à ce qu'écrivait le pape François dans Laudato Si, ça ne nous empêche pas parfois d'être injuste, de faire du mal et tout ça. Pourquoi ça suffit pas d'être un homme de prière? On voit bien que les chrétiens, les catholiques, les gens priants n'ont pas le monopole de la sagesse. Ça serait d'ailleurs, on a bien vu que même si on prend que les histoires d'abus, on a bien vu aussi que dans l'Église, même des hommes ou des femmes de prière n'étaient pas parfaits, étaient capables de faire beaucoup de mal.
Absolument, c'est une vérité tout à fait évidente. Eh bien, c'est pas pour autant que nous devons nous décourager et ne pas, à notre échelle, décider de faire ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Et croire que c'est lorsque maximum de gens, vous savez, la sainteté, c'est pas l'apanage des grands et des puissants, même s'il y a des grands et des puissants qui l'ont atteinte, Dieu merci. Mais des gens tout simples, tout simples, tout simples, comme on en connaît des tas dans nos paroisses, dans nos communautés, sont des personnes qui choisissent de mettre l'évangile en pratique au quotidien avec une grande cohérence. Et c'est cela qu'il faut demander dans la prière, et pour nous, et pour tout le monde, et pour tous les autres. Et surtout ne pas laisser la haine et le découragement atteindre notre cœur, parce qu'ils ne viennent pas de l'Esprit Saint.
Ma deuxième question en réaction à ce que vous disiez au tout début, monseigneur, c'est par rapport à la colère, parce que je sens, et c'est pas souvent dans nos entretiens, qu'il y a un peu de colère aujourd'hui en vous. En tous les cas, vous ne parlez pas avec le même ton que d'habitude. On sent que, voilà, face à ces actualités, ben, on peut s'emporter facilement aussi, parce que on sent peut-être qu'il y a une colère juste aussi. Peut-être que tout ça, on ne doit pas l'accepter, qu'on a raison à un moment de taper du poing sur la table en disant stop, ça suffit, on refuse ce monde-là et ce monde-là nous met en colère.
Ce n'est pas le monde qui nous met en colère, c'est l'insagesse de l'homme qui détruit le monde et qui l'abîme et qui l'oriente dans une mauvaise direction. C'est certainement pas le monde. Le monde en soi, il est créé par Dieu, créé à l'image de Dieu, reflétant Dieu et permettant à ceux qui n'ont pas la foi, dans la contemplation du monde, de découvrir qu'il y a Dieu, qu'il y a un créateur qui est bon. Donc c'est pas le monde en soi, mais c'est l'usage que nous en faisons. C'est ça qui peut mettre en colère légitimement, parce que les hommes font leur propre malheur parce qu'on leur ment. Et ça, c'est le péché de l'homme, et c'est l'ennemi éternel de Dieu qui tord les roues des chars et qui nous fait prendre de mauvaises directions. Voilà, pour utiliser encore une image biblique.
Alors, on a l'impression quand même qu'au cœur de tout ça, eh bien, il y a des moments de consolation. Alors, certainement que vous suivez de près le voyage du pape Léon en Espagne, hein, et pour cause, puisque on sait maintenant que vous êtes dans les starting blocks pour préparer avec certitude la venue du pape au sanctuaire de Lourdes le 27 septembre. En tous les cas, dans ce voyage, il y a beaucoup de choses, hein, qu'on pourrait analyser, décrypter. Peut-être un moment pour terminer cet entretien, on peut peut-être parler de ce moment incroyable de ferveur, de prière avec ces milliers de jeunes qui sont venus prier dans un silence incroyable. Est-ce que finalement ce silence il n'est pas la meilleure réponse à tout ce fracas et ce tracas dont on vient de parler.
J'ai envie de, pour vous répondre, pour répondre à votre question, de m'appuyer sur ce texte immense du pape François au tout début de son pontificat. Je crois que c'était son tout premier texte, La joie d'évangile, et qui rejoint une conviction extrêmement profonde chez moi que la joie est un devoir. Et face à tous les malheurs que l'on vient d'évoquer, eh bien, nous devons nous réjouir, comme nous y invite Saint Paul, comme Saint Paul l'écrit dans l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, réjouissez-vous, soyez toujours dans la joie, et que la joie est prophétique, et qu'elle est l'objet d'une décision et d'une attitude profonde, parce qu'elle s'enracine non pas dans l'air du temps et l'ambiance du monde qui nous rend heureux, mais elle s'enracine dans l'Évangile qui est bonne nouvelle et qui ouvre nos yeux sur l'avenir de toute chose. Et c'est cela qui fonde la joie, et la joie est prophétique, c'est-à-dire que choisir la joie transforme le monde. C'est parce que nous laissons la joie nous atteindre que le monde progressivement est guéri de sa tristesse et de son malheur. Et donc, des moments comme ceux dont on est témoin ces jours-ci, en regardant les images du pape en Espagne, et vous faites allusion à l'immense veillée des jeunes, 600 000 jeunes à Madrid. C'est absolument formidable. Et cette joie-là, elle n'est pas indifférente au malheur du monde. Au contraire, elle est accueil de la joie de l'Évangile qui transforme le monde pour le guérir de sa tristesse. Et c'est dans cette dynamique qu'il faut que nous nous préparions, nous aussi, à vivre une joie analogue lorsque le Saint-Père sera en visite chez nous. Donc le voyage en France est confirmé, mais surtout, désormais, sont officiellement confirmées aussi les étapes du voyage, Paris, Lourdes, Metz, et aux dates qui avaient été proposées. Donc on peut ne plus parler au conditionnel et se préparer paisiblement à connaître une grande joie à l'occasion de ce voyage.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika. Voilà, c'était un entretien un petit peu particulier cette semaine, mais il me semblait important d'aborder ces questions-là. Cela dit, l'actualité du diocèse de Tarbes-et-Lourdes continue évidemment, et vous serez, on peut le dire, ce week-end à la Cité Saint-Pierre pour fêter les 80 ans du Secours catholique, si je ne me trompe pas.
Voilà, et c'est ça, exactement. 80 ans du Secours catholique, de la création du Secours catholique. À l'occasion, on en reparlera d'un pèlerinage immense, 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 qu'on appelle le pèlerinage du retour, des prisonniers de guerre et des travailleurs du STO. Et on est particulièrement concerné avec notre bienheureux Pascal Vergès par cet anniversaire.
Merci beaucoup, Monseigneur, et on vous se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres informations et d'autres nouvelles du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Merci,
Merci
Monseigneur.
beaucoup et très bonne semaine à tous nos auditeurs.